Bonjour, je suis Cécile Paliès et vous écoutez un podcast du Réseau Santé Bruxellois enregistré lors d'un débat organisé autour de la sécurité des données santé partagées. Suite à la demande rencontrée pour l'enregistrement de notre vidéoconférence, nous sommes heureux de partager avec vous ces moments sous forme de podcast, malgré une qualité sonore imparfaite. En compagnie de Vincent Claes, rédacteur en chef du Journal du médecin, nos experts abordent les nombreux aspects de la sécurité liés au partage des données santé. Qu'ils soient techniques, juridiques ou humains, c'est l'ensemble de ces aspects qui permettent un partage sécurisé des données via nos réseaux de santé. Aujourd'hui, notre débat s'intitule « Un échange des données sous haute sécurité ». Jean-Marc Van Giesegem, DPO du Réseau Santé Bruxellois, ouvre le débat en répondant à la question « Pourquoi peut-on dire que les données de santé du patient sont bien en sécurité ?»
L'important, c'est vraiment que les premiers contrôleurs, finalement, ce sont et le patient d'une part, parce qu'ils ont accès à ces fameuses traces, et les médecins par ailleurs. Donc, on a vraiment un double contrôle qui est quasiment un contrôle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que c'est un contrôle qui se fait constamment. Et ça, c'est vraiment très important que le patient soit conscient de cette fonctionnalité, soit conscient qu'en fait, c'est pas parce que le document est partagé qu'il est laissé dans la jungle, accessible à tout le monde et qu'on ne puisse plus le tracer. On n'est pas dans un système genre, alors c'est pas pour stigmatiser, mais genre Facebook, on appuie sur return et la donnée est lâchée, on n'a plus aucun contrôle dessus. Ici, on est vraiment dans un système dans lequel on a dans l'esprit un contrôle et par le patient qui peut refuser que tel médecin accède à tel document et du médecin lui-même qui peut dire « Tiens, un moment, moi, je ne veux plus le partager parce que soit le patient ne veut plus le partager, soit parce qu'il est trop sensible, il va avoir une discussion avec la personne qui veut y accéder. » Donc vraiment, il y a cette notion de contrôle mutualisé, finalement, ou mutuel sur la donnée, ce qui est quelque chose, évidemment, de très, très fort en termes de sécurité.
Je réagis puisqu'on est aussi en direct avec nos internautes, et donc ici, quelqu'un dit, oui, mais c'est un contrôle a posteriori.
C'était un contrôle a posteriori, mais c'est un peu le revers ou l'autre côté de la page. Effectivement, il y a un côté a posteriori, mais qui peut être très rapidement coupé. Ça veut dire que on peut mettre fin à une éventuelle brèche de sécurité de façon quasiment immédiate. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Je connais très peu de systèmes où la réaction peut être aussi rapide. Vous avez une réaction, on clique sur le bouton stop, et ça arrête. Mais dans les hôpitaux, avant, c'était des documents papier, il n'y avait même pas de contrôle a posteriori.
Bien sûr.
Tout simplement parce qu'on n'avait pas connaissance. Ici, on a notre volonté, en tout cas la volonté des réseaux, c'est de ne pas faire la politique de l'autruche et de dire, on a détecté une faille, un accès qui n'est pas autorisé, eh bien on y met fin et on entame la procédure qui est nécessaire pour que le patient soit également informé de cette brèche. Et donc là, il y a tout un système qui vraiment nourrit la sécurité et la sécurité nourrit ce système aussi. Je veux dire, c'est un peu un cercle vertueux, on va dire.
Mathilde, vous qui représentez la Fédération GBIS, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ce contrôle?
Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que il y a plusieurs éléments et je suis tout à fait d'accord que la sécurité s'organise au niveau des patients et donc je rebondis à nouveau sur le point de départ qu'on avait dit, la communication et l'information qui est donnée aux patients est très importante pour lui permettre d'assurer cette sécurité. Sur le deuxième élément, et notamment par rapport à ce contrôle a posteriori, je pense que, en effet, le contrôle se fait a posteriori, mais présent et donc permet quand même d'assurer cette sécurité-là. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'on est face à des données de santé. Et à partir du moment où on est face à des données de santé qui doivent pouvoir rester accessibles aux professionnels de soins de santé, on peut se retrouver dans des situations d'urgence. Et donc, il faut que les professionnels de soins de santé puissent avoir accès rapidement aux données pour assurer la continuité des soins. Et donc, rentrer dans un contrôle a priori serait très compliqué parce que ça nécessiterait de demander à chaque fois un consentement spécifique au patient et alors dans une situation d'urgence, on ne pourrait plus réagir comme on peut réagir aujourd'hui. Donc, c'est toujours l'équilibre qu'il faut trouver et c'est vraiment la réalité de ces réseaux de santé entre l'utilisation qu'on doit pouvoir en faire et pourquoi est-ce que ça a été créé et en effet la sécurité et le suivi qui doit être fait, la protection des données qui s'en suit.
On a de plus en plus d'acteurs de santé qui vont pouvoir accéder avec des droits différents, à des données différentes, c'est la nécessité pour le médecin, pour l'acte de santé, de ne pas prêter son ordinateur à quelqu'un, de ne pas prêter sa session à quelqu'un. Parce qu'en fait, cet autre, ce tiers, va hériter des droits du médecin qui lui prête son ordinateur ou sa session. Et donc ça, c'est quelque chose de très, très important en matière de sécurité, c'est que chacun reste maître et seul maître de sa session, de sa session d'accès au système, parce, et il en est le garant. Et il ne faut pas oublier que ça peut avoir des conséquences importantes, parce que imaginez que vous donnez l'accès à un tiers qui a accès à des documents auxquels le possesseur de la session n'a pas accès. Et puis on le découvre. Qui va être poursuivi? Mais celui qui a prêté son accès au tiers, puisque finalement, c'est lui qui va être le seul nom qui va apparaître dans le log. Et donc ça, c'est vraiment très important que les médecins, que les acteurs de santé en général soient sensibilisés à cela. Et encore plus, je vais dire, dans les hôpitaux, où il y a souvent un partage ordinateur pour plusieurs médecins, mais chaque médecin doit sortir de sa session quand il quitte le local pour être certain que personne ne va usurper, entre guillemets, mais totalement involontairement. Hein. Il voit une session ouverte, mais il va être dessus, il va commencer son travail. Voilà, ça c'est vraiment, et ça rebondit un petit peu sur ce que Thibaut dit, et c'est une règle fondamentale en termes de sécurité, c'est l'aspect humain.
Il ne va pas donner son mot de passe à un tiers de collaborateurs pour faire avancer le travail, mais ça c'est pas la bonne solution, Mathilde.
Oui, mais ça c'est certainement pas la bonne solution, et c'est vrai que au niveau des institutions hospitalières ou des institutions de soins en général, cette question de la sensibilisation du personnel au respect de la protection des données est très importante. Et donc bon, évidemment, il y a des sessions d'information qui sont mises en place. On se rend compte quand même qu'il y a toujours cet équilibre à trouver entre l'accessibilité qui doit pouvoir être rapide, et on sent que les médecins ou les professionnels de soins de santé ont envie de pouvoir facilement accéder aux données, n'ont pas envie de passer par 40 000 systèmes de sécurité avant de pouvoir accéder à leurs données. Maintenant, on en parlait tout à l'heure de différents des accidents de protection de santé, de protection de données, pardon, qu'on a pu voir dans certains hôpitaux. On se rend bien compte qu'il faut avancer dans cette protection des données et dans la sensibilisation des professionnels dans les institutions. Et donc, il y a beaucoup d'institutions qui commencent à réfléchir, par exemple, à mettre en place une double authentification. Donc, ce n'est pas juste le mot de passe, mais il faut pouvoir badger en plus pour pouvoir accéder aux données et ce genre de choses. Et donc, voilà, c'est une mise en place continue, des réflexions continues qui sont au niveau des institutions. Et puis, petit à petit, on espère qu'on arrive à protéger de plus en plus les données. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où c'était au départ des données de santé qu'on retrouvait sur le papier, où en effet, n'importe qui pouvait ouvrir le bureau et arriver, j'exagère un peu, évidemment, dans les archives et trouver les dossiers de santé. Le fait d'avoir ces données qui sont conservées de manière électronique, rien que ce fait-là, même si ça peut poser plein de questions au niveau de la protection, mais rien que ça, c'est déjà encore un peu plus de sécurité par rapport à ce qui existait.
Jean-Marc, le coffre-fort de votre coffre-fort du réseau santé bruxellois, il est bien sécurisé.
Je travaille avec le CSI, donc on travaille en collaboration. On a fait effectivement un audit des systèmes, d'un point de vue juridique, d'un point de vue informatique et sécuritaire. Oui, il est sécurisé, il offre la sécurité que l'état de l'art permet aujourd'hui. Et donc, comme le disait Thibault, on ne peut pas garantir 100%, mais en tout cas, il est, à mon avis, plus sécurisé là où il est que dans un cabinet de médecin qui n'a pas toujours les pare-feux qu'il faut, il n'a pas toujours l'antivirus qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça, beaucoup ont tendance à oublier cela, c'est que ils installent un antivirus sur l'ordinateur, il est vraiment, c'est la Rolls-Royce d'aujourd'hui, et puis ils oublient de le mettre à jour, ils oublient d'avoir un abonnement de mise à jour, et donc on se retrouve 6 mois après avec une évolution des virus, parce qu'évidemment les pirates vont toujours plus vite que nous, et ils arrivent à un ordinateur qui est tout à fait libre d'accès quasiment. Évidemment, au niveau d'un brumette, il y a une mise à jour constante de tous les pare-feux. Il y a le remplacement du matériel quand il devient obsolète ou quand il devient défaillant. Donc, il y a vraiment là toute une politique de suivi en termes de sécurité qui est vraiment extrêmement poussée. Mais le risque n'est pas zéro. Ça, on doit bien s'en rendre compte. Mais on tente en tout cas de limiter le plus possible toute intrusion malveillante dans le système.
Christine Debray, directrice du réseau Santé bruxellois, et Thibaut Duvillier, administrateur général adjoint de la plateforme eHealth, évoquent ensemble le niveau de sécurité rendu plus élevé grâce à l'identification forte des intervenants, qu'ils soient professionnels de la santé ou citoyens.
Mais il y a aussi toute une sécurisation qui est faite évidemment par une authentification forte de la personne qui se connecte. Alors quand il s'agit du patient, il s'agit de s'authentifier soit avec sa carte d'identité, un lecteur de carte électronique et son code PIN, donc ça c'est quand même bien sécurisé, soit avec ItMe, qui sont vraiment deux moyens d'identification très forts. On veut maintenir un niveau d'identification vraiment fort, y compris pour les patients, pour justement rendre la tâche plus compliquée, je dirais, à toute personne malveillante. Il y a énormément aussi, la plateforme IELTS joue aussi un rôle pour ce qui est de l'identification forte au niveau des prestataires de soins, ceux qui sont en pratique indépendante, c'est aussi très fortement sécurisé, puisqu'ils doivent avoir un certificat IELTS qui garantit qu'ils sont bien le médecin ou le prestataire de soins qu'il ou elle prétend être. Donc, voilà, tout ça, ce sont des mesures qui participent à la sécurité d'un écosystème pour qu'à tous les niveaux, au maximum de niveaux possibles, on aille vraiment élever le niveau de sécurité.
Ce certificat du prestataire, il est renouvelé régulièrement ou il est auto-renouvelé?
Il y a un renouvellement, en fait, que une fois qu'on arrive à une certaine date d'expiration, le médecin en a informé et effectivement, le renouvellement se fait assez automatiquement. Mais effectivement, ça permet aussi, l'authentification est essentielle pour vérifier, comme le dit Christine, pour le patient, les données médicales sont des données sensibles. Donc malheureusement, ça peut paraître être lourd au niveau de l'authentification, mais en même temps, c'est une garantie par rapport aux types de données de santé. Et pour le prestataire de soins, effectivement, c'est bien vérifier dans une base de données que c'est bien celui qu'il prétend être, qu'il est en ordre, qu'il a bien son visa, son agrément, qu'il n'y a pas une procédure au niveau de l'ordre des médecins à son encontre. Donc, dans la garantie aussi qu'on peut donner aux citoyens.
Et à ce propos-là, c'est aussi attirer l'attention d'une communication entre le service, je vais dire, administratif d'un hôpital ou d'une institution de soins de santé et le service informatique. C'est-à-dire quand un contrat est fini et que ce contrat ouvrait une porte, bien, il ne faut pas oublier d'aller fermer la porte et de dire maintenant le contrat est terminé avec ce fournisseur-là, je ferme la porte parce que sinon, elle reste éternellement ouverte. Et donc là ici, c'est la sécurité d'une question de communication entre les différents services administratifs et techniques d'une institution de soins de santé. Ça, c'est vraiment aussi crucial, ce transfert d'informations pour que tout le monde puisse travailler de façon coordonnée, cohérente et mettre alors de garantir la sécurité chacun à son niveau.
Ce podcast vous a plu ? Écoutez nos 5 autres podcasts relatifs à la sécurité des données santé partagées. Il traite des fondements du partage des données santé sur les réseaux, des conditions d'accès, dont le consentement qui fait l'objet d'un podcast à lui tout seul, de la sécurité des systèmes et de l'accessibilité de ceux-ci à tous les patients, ainsi que de la deuxième vie de nos données de santé. À très bientôt !